Charlebourg du Berger. Pizza Passion pour l'amour de la pizza. Pizzapassion.ca.
Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh que oui, Sieur de Terrien. Je sais pas si tu le savais, mais en préparant cette chronique, tu t'attaques à l'histoire d'une de mes idoles d'enfance. Hein? Salut François.
Bon Dieu, là, tu me jettes à terre. C'est vraiment ton idole, Jean-Paul?
Ouais. Quand j'étais jeune, moi, je voulais devenir pape. En fait, mon ami Tom puis moi, les deux, on était des super grands chums depuis tellement longtemps que, tu sais, on est amis depuis avant qu'on le sache qu'on est amis, là. Tu sais, on s'est fait changer nos couches ensemble, la patente. On était encore chums, d'ailleurs. Puis on regardait les discours de Jean-Paul II. Puis là, on voyait... Déjà, il y avait deux affaires. Déjà, il était atteint de la maladie de Parkinson, puis il tremblait un peu. Puis là, ben nous, on était des enfants, fait qu'on trouvait ça drôle, mais on était des enfants, on s'entend, on comprenait pas que c'était une maladie. Puis l'autre affaire, c'est que il était tout le temps super habillé avec la toge, puis le casque de pape, là, tu sais, puis le
chapeau. La mitre papale.
C'est ça, la mitre de baseball papale, puis les ornements, puis ces affaires-là. Puis on trouvait que c'était prestigieux, puis il faisait des discours devant des gens qui l'acclamaient. Ça fait que on se disait, hey, on va faire ça, si tu parles d'une job, si c'est hot, tu t'installes, tu jases au monde, les gens, ils trippent, tu sais. On voyait ça comme un spectacle. Puis à un moment donné, nos mères, eux autres, qui étaient ensemble, nous regardaient aller, ils se disaient, il faudra qu'on leur dise, à un moment donné, qu'il peut pas y avoir deux papes. À la limite, si tout va bien, il n'y aura rien qu'un des deux qui va être pape, l'autre va être déçu, mais ça, on leur dira ça plus tard. Hein? Mm-hmm. Puis un jour, on a appris qu'il fallait faire vœu de chasteté, ça fait que là, on a comme changé de projet.
Tout est tombé à l'eau.
Alors oui, quand j'ai vraiment idolâtré Jean-Paul II quand j'étais petit.
Ben, t'es pas tout seul, parce que ça a été, faut le reconnaître, là, ça a été un grand homme.
Oui, oui, oui.
Un des papes les plus importants de la chrétienté. Là, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il aurait eu 100 ans cette semaine, le 18 mai 1920. Jean-Paul II naquit dans le sud de la Pologne. Puis c'est un anniversaire qui passait pas mal sous le radar ici. Puis il y avait pourtant l'héritage de son pontificat se fait encore sentir là, aujourd'hui, et pas juste du point de vue religieux. Là. On en a parlé, mais jamais autant que ce qui s'est fait en Europe et surtout en Pologne, là où c'était pratiquement une fête nationale pendant toute la semaine, les 100 ans de Jean-Paul II. Donc, il est né le 18 mai 1920 près de Cracovie, c'est dans le sud de la Pologne. Il est devenu le premier pape non italien en 4 siècles. Quand il a été élu en 1978, là, c'était la première fois qu'on élisait un pape slave, d'originaire de ce coin-là de l'Europe. Et c'était la première fois que c'était pas un Italien depuis les années 1500. Là. Alors, c'était une méga surprise. Puis en plus de ça, son règne a été très long. 26 ans et 5 mois. C'est le deuxième plus long de l'histoire, si on exclut Saint-Pierre, là, que ça a duré 34 ou 37 ans. Là. Le plus long de l'histoire dans les papes modernes, c'était Pie IX, qui avait été élu au 19e siècle, puis qui a été pape pendant 31 ans. Donc, Jean-Paul II est élu en octobre 1978. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, c'est le deuxième conclave. Paul VI était mort à la fin de l'été au mois d'août. Puis son successeur, qui s'appelait Jean-Paul I, il a duré un mois. Il est mort subitement à la fin du mois de septembre. Alors, il a fallu faire un autre conclave. Puis déjà, Jean-Paul I laissait présager de ce qui pouvait se passer avec la papauté. C'était un pape qui était très... comment je pourrais dire ça, là, il était près des gens. On voyait d'habitude un pape, là, quand on dit sérieux comme un pape, là, ça sort pas du champ gauche, cette expression-là. Mais lui, il était fin avec les gens, il était simple, il jasait. Mais
il a modernisé un peu la papauté.
Ouais, ça a l'air qu'à l'époque...
Il l'a déconstipé, on va dire ça de même.
Ouais, puis ça a l'air, parce qu'à l'époque, des papes phonés puis des papes proches des gens, c'était rare comme la mère de pape.
Oui. Une autre belle expression. Ouais. Alors, bref, évidemment, quand le conclave a commencé, les gens se sont dit, bon, ben là, deux conclaves en une année, ben, un, c'est très, très rare, deux, on veut pas ça. Alors déjà, il y avait un mouvement pour élire un jeune pape, mais... Les favoris étaient italiens, parce que là, c'était presque dans le mode d'emploi. Là. Un pape doit être italien. Et finalement, c'est Jean-Paul II qui a été élu, parce que les deux favoris italiens, il y avait deux clans. Là. Il y avait un clan qui votait pour un, l'autre pour l'autre. Puis, dans un conclave, tu dois avoir la majorité des deux tiers pour que le pape soit élu. Puis, il n'était pas capable. Puis, c'était clair que ni un ni l'autre allait réussir à... rallier les deux tiers des cardinaux qui votaient. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a un cardinal, c'était un Autrichien, il a dit, ben écoutez, moi, je vous propose l'archevêque de Cracovie pour telle et telle raison, qui s'appelait Karol Wojtyła. En fait, ça s'écrit Wojtyła, mais ça se prononce Wojtyła. Alors, les gens l'ont écouté, puis finalement, ça a discuté, et c'est lui qui a finalement été élu. Puis ça a été un pape très, très important. Il a modifié la papauté. Il a il a dirigé l'Église d'une façon différente. On disait souvent à l'époque là que le pape, c'était un peu le directeur général de l'Église. C'était le Marc Bergevin de l'Église, si vous voulez. Mais lui, il a changé ça. Il disait le pape doit aller à la rencontre des gens. Ça doit être un évangélisateur comme les apôtres l'étaient. Et puis, c'est ça qu'il a fait. Puis, en 2014, lui, il est mort en 2005. Puis, en 2014, 10 ans après sa mort, ce qui est très rapide dans les standards, il a été béatifié. Alors, puis c'est... Pour certains, c'était trop rapide. Il y en a d'autres qui disent que c'était un pape trop conservateur. Bref, il n'a pas fait complètement l'unanimité, mais pendant qu'il était là, il a vraiment fait des choses qui sortaient de l'ordinaire pour un pape.
Mais là, s'il a été béatifié, c'est pas la même fois que sanctifié.
Il n'est pas devenu saint. Là.
Il n'est pas saint Jean-Paul II.
Non, il n'est pas encore saint. Il n'est pas encore saint, mais la procédure pour qu'il le devienne est enclenchée.
Il est sur le bulletin de vote maintenant.
Ouais, c'est ça. Il est inscrit.
C'est comme la première étape.
Il est inscrit.
Mais ces affaires-là sont très, très longues. Là. L'Église va à son rythme. C'est un rythme qui est très, très lent. Alors, c'est pas demain la veille. Ouais. Comme je vous dis, là, pour qu'un pape qui soit mort 9 ans avant soit béatifié, c'est pas fréquent. Là. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de spécial, là, ce monsieur-là. Quand il est né en 1920, la Pologne venait de renaître. Parce que l'histoire de Jean-Paul II est beaucoup imbriquée à celle de la Pologne. La Pologne, c'était un pays jadis dans l'Antiquité, qui était très puissant, qui était très étendu, mais qu'il y avait des voisins tout aussi puissants autour, puis il s'est fait manger à un moment donné. À partir de 1795, la Pologne comme État politique n'existait plus. Il était divisé entre l'Empire allemand d'un côté, l'Empire russe de l'autre, puis l'Empire austro-hongrois avait un petit bout dans le sud du pays. Puis après la Première Guerre mondiale, ce pays-là renaît de ses cendres et devient indépendant. Sauf que ça n'a pas été très, très long. Et Jean-Paul II, lui, naît dans cette optique-là. Il est la Pologne indépendante. Mais il y a plein de tragédies personnelles qui l'affectent. À 9 ans, il va perdre sa mère. Sa mère meurt à un âge précoce, alors que Jean-Paul II a seulement 9 ans. Puis 3 ans plus tard, son frère est né. Il y avait un frère qui était 13 ans plus vieux que lui, qui était médecin. Il est mort. Alors, il s'est retrouvé seul avec son père, qui était un retraité de l'armée, puis qui était un monsieur très, très pieux, puis qui a élevé seul... son fils. Le destin de la Pologne et celui de Jean-Paul II va changer lorsque la deuxième guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939 avec l'invasion de son pays par les armées d'Hitler. Les Polonais vont souffrir beaucoup pendant l'invasion nazie, l'occupation nazie en fait, parce que c'est eux, ils voulaient briser la culture polonaise. Puis pour pouvoir étudier, Jean-Paul II a étudié en théologie. En philosophie, il n'y avait plus d'université. Là. Les cours se donnaient la nuit clandestinement. Là. Alors, donnez-vous une idée, là, quand on parle des cours à distance là, pendant notre fameuse pandémie, là, lui, là, il allait dans un appartement quelque part caché, il brisait le couvre-feu, puis il suivait ses cours la nuit, puis il allait travailler dans une mine c'était une mine de sel, je pense, où il travaillait le jour. Alors, fallait le faire en tabarouette. Là. Il a traversé des épreuves. C'était dur. Là. C'était physiquement difficile, puis ça devait être moralement difficile aussi. Là. Il n'y avait pas beaucoup de sommeil. Il n'y avait pas beaucoup d'heures qui étaient consacrées au sommeil dans ce temps-là. Ce qui était particulier de Jean-Paul II, c'est qu'au départ, lui, il ne se destinait pas du tout vers la prêtrise, même si c'était quelqu'un de pieux. Là. D'ailleurs, les Polonais c'est un peuple très religieux. Là. Ce qui a mené pas mal à son élection par la suite. Là. C'était un gars qui aimait le théâtre, il était doué pour les langues. Il parlait 12 langues, le pape Jean-Paul II, dont le français. Là. Puis, à la mort de son père en 1941, il a 20 ans, puis il se retrouve orphelin complètement. Là, ses plans changent. Il a décidé de s'en aller vers la prêtrise, mais comme je vous disais, étudier, ça relevait du défi sous l'occupation allemande. Puis finalement, il a réussi à le faire. Il est ordonné prêtre en 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, c'est les Soviétiques qui étaient rendus les maîtres, entre guillemets, de la Pologne. Ouais. En fait, ils n'étaient pas maîtres directement, mais ils sont organisés que ce soit un gouvernement communiste. Puis les communistes puis la religion, ça faisait pas bon ménage. Alors, c'est sûr que l'oppression était moindre, mais il y en avait quand même. C'était difficile. Alors, toute la vie adulte, la prêtrise de Jean-Paul II, ça a jamais été facile. Lui, il était très, très près des jeunes. Le régime communiste permettait pas à des prêtres de fréquenter des jeunes. Eux, ils voulaient... Dans le fond, le but du gouvernement communiste à l'époque, c'était de briser la relation qu'il y avait entre le peuple polonais et la religion catholique. Là. C'était ça qu'il voulait. Là. Alors lui, il fallait qu'il trouve des façons clandestines de faire pour faire de mener sa prêtrise comme lui le pensait. Puis déjà, à cette époque-là, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il évangélisait quelque part. Là. Il allait près des gens, puis il parlait de Dieu aux gens. C'est ce qu'il faisait. Alors, quand il a été nommé évêque, puis ça parle beaucoup de Jean-Paul II, il a été nommé évêque, puis c'était l'été, puis il était justement avec des jeunes dans une retraite. Lui, il faisait du kayak beaucoup. Il descendait des rivières avec des jeunes, puis ça discutait beaucoup de religion pendant les temps morts, si vous voulez. Puis, il a fallu qu'il parte de là, puis qu'il s'en aille recevoir sa charge d'évêque. Puis, il s'est arrêté dans un monastère ou dans un couvent qui était tenu par des religieuses pour prier. Il est arrivé là, les religieuses ne le connaissaient pas. Puis, il dit, j'aurais besoin de prier, est-ce que je peux fréquenter votre chapelle? Ils ont dit, pas de problème. Ils l'ont emmené vers la chapelle. Là, les heures passent, puis il sort pas de là. Fait qu'à un moment donné, les religieuses vont le voir, puis voir si ça va bien. Il était encore agenouillé, puis il priait. OK, ça va. Fait qu'il part. Sur l'heure du souper, il est encore là. Fait qu'ils ont dit, écoutez, si vous voulez souper avec nous, vous êtes le bienvenu. Alors, il dit, non, il dit, j'ai encore beaucoup de discussions à avoir avec Dieu, là. Il a prié pendant des heures de temps. Mais lui, là, il pouvait faire ça, là. Rentrer. On appelle ça le mysticisme, un peu, là. Il pouvait rentrer dans une, pratiquement en transe, là. Il était complètement, là, absorbé, là. Il y avait rien qui pouvait le déranger. Puis lui, il faisait ça beaucoup. Son père faisait ça. Alors lui, le faisait beaucoup. Et finalement, il est nommé archevêque et cardinal en 1967. Pour mener jusqu'à la papauté à partir de 1978. Et lui, un des grands achèvements de sa papauté, c'est pas au niveau religieux, c'est au niveau politique, parce qu'on dit qu'il y a une grande part de responsabilité dans la chute du Bloc communiste, parce que lui, là, c'était un pape polonais, et le premier domino, dans le fond, là, qui a mené vers la chute du Bloc communiste, là, la chute des gouvernements communistes dans tous les pays d'Europe de l'Est, c'est lui un peu qui l'a posé. Quand les syndiqués du chantier naval de Gdansk, dans le nord de la Pologne, ont fait leur mouvement de grève en 79-80, là, ben Jean-Paul II venait d'aller en Pologne l'été précédent, puis ça avait comme galvanisé le peuple, puis eux, ils ont parti Solidarność, là, avec Lech Walesa, là, ben, c'est à partir de là. Puis eux, ce qu'ils faisaient, là, pour attirer les médias vers eux, là, ils affichaient dans les grilles du chantier des photos du pape. Alors, c'est un pape, là, dans le fond, là, sa seule présence. Puis lui, pour lui, c'était la quête. Lui, c'était pas de faire chuter un régime. C'était la quête de liberté individuelle pour les gens. Mais il l'entendait pas dans la même façon que nous autres, on va parler de liberté individuelle, là, faire ce qu'on veut, là. Pour lui, la liberté, là, c'était de comprendre la vérité puis comprendre ce que le destin voulait pour chaque être humain en particulier, là. C'était très particulier comme démarche. Puis c'est un petit peu pour ça, peut-être, que nous, ici, on comprend moins ça. Parce que, évidemment, là, l'histoire du Québec puis du Canada, là, ça ressemble pas du tout à l'histoire de la Pologne, là. Dans les 50 années, là, qui partent du début de la Deuxième Guerre mondiale puis qui finissent avec la chute du communisme, là, autour des années 89-90, là, ils ont mangé de la misère solide. Puis lui, il a fallu qu'il navigue là-dedans. Là.
Mais comment ça se fait, François, que parce qu'on dit que c'était un pape qui était donc qui a libéré les peuples de l'oppression, mais on dit aussi que c'était un pape qui était conservateur. C'est un peu contradictoire, non?
Oui, ben, en fait, conservateur, c'est que ce qu'on comprend de Jean-Paul II, c'est qu'il y avait une vision. Ben, évidemment, l'Église catholique, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une business. Mais ça a une sorte d'ADN. Ce qu'on appelle la théologie puis les dogmes, là, il y a des choses qui sont centrales à la religion puis qui peuvent pas changer. Entre autres, au niveau, ce qu'on lui rapproche au niveau conservateur, c'est que, pour lui, le droit à la vie, c'est sacré. Alors, quand on parle de droit à la vie, on parle d'avortement. Alors, lui, évidemment, là, au niveau de l'avortement, là, pour son chaîne de pensée, là, va pas vers un avortement complètement libre. Pour lui, la vie est sacrée, puis on doit le respecter. Alors, il y avait ça, entre autres. Et aussi, puis ça, c'est drôle parce que ça a touché l'histoire de la religion à Québec, je vais vous expliquer. C'est pour lui, la relation de la personne avec son Dieu est importante.
Okay.
Puis, ici à Québec, il est arrivé un événement quand Monseigneur Maurice Couture a été évêque de Québec, archevêque de Québec. Dans la tradition, l'archevêque de Québec va être nommé cardinal. Or, puis ça date de l'archevêque Taschereau vers la fin des années 1800. Alors, depuis 125 ans, là, à chaque fois qu'il y a eu un nouvel évêque à Québec, un nouvel archevêque, excusez, il était nommé cardinal à un moment donné. Okay. Il y en a juste deux pour qui ça a été une exception, Monseigneur Couture, puis un autre dans les années 20, mais lui, il a été archevêque de Québec seulement pendant un an. Dans le fond, ils n'ont pas eu le temps de le nommer cardinal. Okay. Mais dans le cas de Monseigneur Couture, c'est que lui, il avait comme élargi la coutume de l'absolution générale. C'est-à-dire, on disait ça souvent, le curé a donné l'absolution générale à la fin de la messe.
Ouais.
Mais pour Monseigneur Couture, c'était quelque chose qui était fréquent, et le pape Jean-Paul II n'aimait pas ça.
Okay.
Et c'est probablement pour ça qu'il ne l'a jamais nommé cardinal. Et c'est Monseigneur Ouellet qui lui a succédé en 2002. L'année d'après, tout de suite, il était nommé cardinal. Finalement, il n'a pas resté longtemps ici là, parce qu'il a été rappelé à Rome. Pardon. Alors, ça vous donne une idée pourquoi on disait que c'était un pape conservateur, Jean-Paul II. Puis évidemment, l'autre chose qui est arrivée là-dedans, c'est tous les scandales sexuels qui touche à l'Église. Déjà, à l'époque du pontificat de Jean-Paul II, on en parlait, mais il n'a pas fait grand-chose. Puis ça lui a été reproché. Ce que certains observateurs disent, qui est probablement arrivé, c'est que lui, il venait d'un pays où les dirigeants politiques faisaient tout pour discréditer l'Église. Puis il a probablement pensé, et il a probablement été encouragé comme ça dans sa pensée, que c'était trop gros pour être vrai et qu'il y avait un genre de complot de déstabilisation là-dedans. Alors, il n'a jamais attaqué le problème de front, et ça lui a été reproché. D'ailleurs, là, les papes qui lui ont succédé, là, le pape François, entre autres, là, lui, il est pris avec ça. Là. Puis, c'est un petit peu là, le mandat qui s'est donné un peu, là, de faire un peu le ménage, non seulement dans la façon de diriger l'Église, mais aussi là, d'attaquer ces problèmes de scandales sexuels et de régler ça comme il faut et de pas protéger ceux qui s'en rendent coupables.
Puis vous, Monseigneur de Terrien, cardinal, c'est pour bientôt ou ben
c'est pas dans les plans. Je vous dirais que c'est pas trop dans ma vocation.
De toute façon, il n'y a pas moyen de se rendre au Vatican ces temps-ci. Là, c'est fermé, il n'y a pas d'avion qui se rend. Merci, François. Non.
Ça fait plaisir. Salut, les gars.
Salut, bye. François Terrien. Dis le sieur ou Monseigneur de Terrien, grand érudit devant l'Éternel.
Et c'est lui le pape qui a été le premier à utiliser la fameuse pape mobile. Parce
oui,
qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, je pense que c'était en Italie, je pense que c'était à Rome, me semble.
Il y a un auditeur qui nous a écrit avec sa pape mobile.
Il était venu à Québec avec sa pape mobile. Ben, il l'a utilisé à Québec. Il n'est pas venu en pape mobile parce que ça ne va pas sur l'eau.
Il ne l'a pas fait shipper dans l'Antonov. Non,
pas dans l'Antonov. C'est pas inventé encore.
Ça aurait rentré, par exemple.
Facile. Ça aurait rentré.
Une flotte de pape mobile.
Il rentrerait un 400-500 pape mobile dans le.
Oui, non, mais il y a un avion papal aussi, lui.
C'est vrai?
J'ai déjà entendu ça.
Je pense que oui.
L'avion papal.
Oh oui,
le terme papal,
comme
moi, tu fais toujours rire.
Il y a le Air Force One pour le président des États-Unis.
Air Force papal.
Il y a quelqu'un qui
le Saint Air Force pour.
Jean-François, il dit la fin de la pizza chez McDo aussi, ça a l'air, c'est lui. Je sais pas pourquoi.